Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'enlèvement du baron en pain. L'intitulé de cette affaire, j'en suis sûr, vous dit quelque chose. Mais quoi au juste? Si vous êtes dans cette incertitude, vous vous dites que précisément, cette émission Affaires Sensibles est là pour vous rafraîchir la mémoire. De fait. Et puis vous savez, nous en sommes tous au même point avec nos souvenirs, quelquefois un peu flous, y compris avec ces quelques grandes voix de France Inter que nous avons testées. Bonjour Seigneur de Villers.
Bonjour Fabrice Drouel.
Si je vous dis le baron en pain, qu'est-ce que ça vous évoque précisément?
Quelque chose quand j'étais petite.
Bonjour Maggie.
Bonjour.
L'affaire du baron en pain, qu'est-ce que ça vous évoque précisément?
La première image qui me vient à l'esprit, c'est un doigt coupé. Immédiatement, c'est la prise d'otage et un doigt coupé.
Quelle année?
Waouh! 76?
Presque. Merci Nagui.
Merci.
Bonjour Charline.
Bonjour Fabrice.
Le baron en pain, qu'est-ce que ça vous évoque?
Oh là 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 là! La Belgique? La réponse est là!
Ok. Si je vous demande l'année.
Je dirais 70 et j'étais pas née.
Bien. Ah ben c'est pas ça. Merci en tout cas, Charline. Bonjour Rebecca Manzoni.
Bonjour.
Si je vous dis le baron en pain.
Ça m'évoque un kidnapping. Un petit doigt coupé.
Quelle année?
Alors là, je sais pas. Là, c'est une colle.
Nos grandes voix de cette antenne ont un peu patougé. Qu'elles soient remerciées en tout cas d'avoir joué le jeu. Alors, cette affaire du baron en pain, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un baron, comme son titre l'indique, un baron de l'industrie. Il était l'héritier et le PDG du groupe en pain Schneider, l'un des plus grands groupes européens. Le 23 février 1978, il est victime d'un enlèvement. Son calvaire durera 63 jours. Menaces, enquêtes, rançons, fusillades, procès rythment cette histoire sur fond de tractations financières et d'emballements médiatiques. Tous les ingrédients du polar ou du film noir sont ici réunis. D'ailleurs, en seconde partie d'émission, nous recevrons Patrick Sobelman, producteur du film Rapt, réalisé par Lucas Bellevaux en 2009, avec Yvan Attal et Anne Consigny, film qui s'inspire directement de l'affaire en pain. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attaché de production Valérie Bourg, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Jean-Philippe Jeanne.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Lundi 23 janvier 1978, Paris 33, avenue Foch. Il est 10h30 ce matin-là quand Jean-Denis, 62 ans, gare sa Peugeot 604 grise devant l'entrée d'une très chic résidence du 16e arrondissement. Comme tous les matins, il attend son patron, Édouard Jean, en pain. Le jeune et sémillant PDG du groupe en pain Schneider rejoint son chauffeur, s'installe à l'arrière du véhicule et entame sa revue de presse personnelle. Elle commence souvent par le Figaro. Comme chaque matin, Jean-Denis remonte l'avenue Foch jusqu'à la place de l'Étoile en direction de la rue d'Anjou où se trouve le siège du groupe. La force des habitudes, de celles qui rassurent. Jusqu'au jour où un grain de sable, un sérieux grain de sable, enraye la machine. Ce jour-là, le grain de sable, c'est ce motard qui roule devant la voiture du PDG à quelques mètres du domicile du baron sur l'avenue Foch. Tout à coup, Jean-Denis s'aperçoit que l'homme à moto perd l'équilibre, tangue et finit par chuter sur le bitume, juste à côté d'une estafette garée en double fil. Le chauffeur freine d'un coup sec. Édouard Jean-Pin lève les yeux de son journal, interroge Jean-Denis. Que se passe-t-il? Ce dernier n'a pas le temps de répondre que d'un coup, plusieurs hommes encagoulés surgissent de l'estafette. Le motard se relève, lui aussi le visage masqué. Une partie des hommes attrape le chauffeur à l'avant, l'extrait du véhicule et le jette dans la camionnette. Simultanément, les autres agresseurs entrent à l'arrière de la 604, saisissent la tête de Jean-Édouard en pain, le bâillonnent et lui nouent du sparadrap autour des yeux. Ils le menottent et le plaquent à leurs pieds. Les véhicules démarrent en trombe, l'opération aura duré quelques minutes, la marque des pros. À l'arrière du véhicule, Édouard Jean-Pin est effrayé, mais se mure dans le silence. Il ne dit rien, ne montre rien, essaie de retenir son souffle. Pas le choix. Les seuls mots prononcés par ses kidnappeurs sont « Fais ce qu'on te dit, sinon on te bute ». Dit comme ça, effectivement, ça ne se négocie pas, pas la peine de faire du zèle. Au bout de quelques minutes, la 604 s'arrête. Les hommes sortent le baron en pain de la voiture et le placent dans le coffre d'un autre véhicule. S'ensuit une pause de plusieurs heures. puis ils repartent. Pour le baron, la descente aux enfers commence. Son chauffeur, lui, a été relâché porte-maillot une dizaine de minutes après le rapt. Il a plusieurs côtes fêlées, les poignets entravés. Il se précipite au commissariat le plus proche. Mais l'alerte a déjà été lancée après l'appel d'un témoin de l'enlèvement. Il faut peu de temps à l'AFP pour diffuser sa première dépêche. L'information est reprise par tous les médias.
Un rapt à l'italienne, donc, ce matin à Paris. Le baron Édouard Jean Empain, 41 ans, roi de la finance et de l'acier, a été enlevé devant son domicile de l'avenue Foch par plusieurs hommes armés, au moins 5. Nous le savions depuis la fin de la matinée, mais pour ne pas mettre en danger la vie de l'otage, nous avons attendu le feu vert de la police pour en parler.
Ce 23 janvier 1978 n'est pas n'importe qui. Non, ce n'est pas n'importe qui qu'on vient d'enlever, ce n'est pas n'importe quelle date. De nationalité belge, Édouard Jean Empain, Wado pour ses intimes, a de l'allure, grand, sportif, le visage carré, le cheveu blond et le regard bleu profond. Il détonne dans le paysage du grand patronat français. Marié à 20 ans, père de famille peu de temps après, il décide en 1967 de prendre les rênes du groupe dont il est l'héritier à 30 ans à peine. Les sceptiques sont rapidement convaincus par les capacités du jeune baron. En 10 ans, il développe un empire. 300 entreprises, 120 000 employés, le groupe Empain-Schneider est implanté dans le monde entier, dans des domaines aussi variés que la sidérurgie lourde, la banque et surtout, depuis quelques années, le nucléaire. Il est le premier homme d'affaires étranger à entrer au CNPF. Un homme riche, très riche, à la tête d'un empire, et ce titre de baron qui mêle le désuet au clinquant de l'aristocratie. Les enquêteurs le savent, cet homme est une cible privilégiée. L'enquête démarre. Pour l'instant, les policiers ne peuvent compter que sur le témoignage de Jean-Denis. Les riverains, eux, n'ont presque rien vu. Le chauffeur a bien entendu quelque chose.
J'ai vu deux gars arriver vers moi. Et c'est celui qui a ouvert la porte qui m'a braqué avait un revolver dans chaque main. Et il y en avait un plus grand derrière lui qui avait un revolver. Alors ils m'ont sorti de la voiture. Ils m'ont traîné sur une quinzaine de mètres, 20 mètres, j'en sais rien. Et il y en a un qui m'a dit, c'est pas après toi qu'on en veut, on veut pas te faire de mal. Alors il y en a un autre qui était dans la camionnette qui lui a parlé en allemand. Il me semble que c'était de l'allemand, mais c'est
Qu'est-ce que vous pouvez penser que c'est de l'allemand? C'était un son guttural?
Eh bien, qu'est-ce que vous voulez comme j'ai dit aux policiers, ça vous arrive de vous trouver dans un lieu public, c'est-à-dire au restaurant ou d'un côté ou de l'autre dans une brasserie. Vous reconnaissez bien quand même si c'est des Anglais qui sont à côté de vous ou si c'est des Allemands.
Mmh. Il y a longtemps que vous êtes au service du baron Empain?
10 ans.
10 ans. Vous l'aimez bien?
Oh. C'est un patron exceptionnel. Hein.
L'un des ravisseurs aurait donc l'accent allemand. Cet élément n'est pas anodin. Quelques mois auparavant, en effet, en septembre 77, Hans Martin Schleyer, le représentant du patronat allemand, est enlevé, puis assassiné par la fraction armée rouge. C'est le temps des brigades rouges et de la bande à Bader. On parle même de rapt à l'italienne pour décrire cette série d'enlèvements de patrons européens. Et la France n'est pas épargnée. Elle a en mémoire l'enlèvement de Luchino Revelli-Beaumont, patron de Fiat France, quelques mois avant le baron. Il avait été retenu pendant 89 jours. Face à cette piste politique, l'ensemble de la classe politique s'empresse de prendre la parole pour dénoncer le kidnapping du baron Empain. Même François Mitterrand, premier secrétaire du Parti Socialiste, organise une conférence de presse.
Tout enlèvement, pour quelque raison que ce soit, est un acte de barbarie. C'est un recul de civilisation. Il n'y a pas d'excuse. C'est au demeurant dérisoire pour quiconque veut changer la société que de penser que des actes de violence individuelle auront d'autres résultats que de renforcer la capacité contre-révolutionnaire du pouvoir en place. Je dis donc, au nom du Parti Socialiste, que nous condamnons formellement ce type d'action et que nous formons des vœux pour que cet enlèvement n'ait pas de conséquences tragiques.
Le 24 janvier, au lendemain de la disparition, deux appels téléphoniques à des organes de presse revendiquent l'enlèvement au nom des noyaux armés pour l'autonomie populaire, les NAPAP, un groupuscule maoïste. Dans leur second message sont exposées les revendications. Si d'ici demain, deux membres de la fraction Armée Rouge ne sont pas libérés, le baron sera exécuté. Comme ça, c'est clair. Toute la journée, ce sont des dizaines de coups de téléphone que reçoivent la presse et les policiers en France et en Belgique. Pourtant, la police accorde peu de crédit à ces témoignages. D'ailleurs, un membre des NAPAP appelle pour démentir la responsabilité du groupe dans cette affaire et le porte-parole du ministre de l'Intérieur, Gérard Berger, dénonce cette série d'appels.
La journée a été essentiellement marquée par les appels téléphoniques d'origine diverse et appels parfois contradictoires qui ont été adressés à des organes d'information. À l'heure actuelle, il n'a pas été possible d'authentifier ces appels. En conséquence, à l'heure où je vous parle, toutes les hypothèses sont encore retenues par les enquêteurs.
Ce qui frappe et inquiète les enquêteurs, c'est le professionnalisme des kidnappeurs. La rapidité d'exécution et leur capacité à disparaître dans la nature les impressionnent. Alors, un énorme dispositif policier se déploie dans toute la région parisienne et la Peugeot 604 est rapidement retrouvée dans un parking souterrain. Mais aucune empreinte, aucune trace du baron, rien. Les policiers ont définitivement un temps de retard sur les malfaiteurs. Ils doivent maintenant attendre qu'ils se manifestent. De son côté, le baron en pain porte sa croix depuis deux jours. Le froid, oui, c'est d'abord ce froid terrible, glaçant, qui saisit Édouard Jean en pain le 23 janvier, lorsque la cavale s'arrête enfin. On le descend de la voiture, il monte quelques marches et se retrouve à l'intérieur d'une galerie. D'un coup, on le jette sur un matelas pneumatique, dans une tente. On finit par lui libérer les yeux et la bouche. Autour de lui, l'obscurité est totale. Seules quelques lampes torches éclairent les lieux. Le silence de la pièce est angoissant. D'emblée, Édouard Jean peint le sang. Il ne doit pas paniquer, il doit rester calme, raisonner. Surtout, ne pas crier. C'est comme ça qu'il pourra gagner le respect de ses ravisseurs. Il leur donne le nom de deux personnes à contacter, ses deux collaborateurs au sein du groupe Schneider. Jean-Jacques Biry, son mentor et ami toujours, et René Angon, son numéro 2, le président par intérim du groupe. Sous la dictée des ravisseurs, il écrit au premier « Cher Jean-Jacques, ma vie dépend des instructions qui vont suivre. Il est nécessaire de disposer de 80 millions de francs français pour jeudi prochain au matin. Toute intervention de la police au moment de la remise de la rançon serait catastrophique. » La missive écrite, il demande à ajouter un mot pour sa femme. « Ne t'inquiète pas, tout finira par s'arranger. » À peine a-t-il reposé le stylo que les ravisseurs le saisissent, lui font avaler un somnifère, prennent sa main gauche et écartent l'auriculaire des autres doigts. Ils le piquent pour l'endormir tout de même et lui coupent la première phalange. Édouard Jean Pin vacille, puis s'évanouit. Le 24 janvier, en milieu de journée, Jean-Jacques Biry apprend qu'un appel téléphonique anonyme lui ordonne de se rendre à la consigne de la gare de Lyon, casier 595. L'homme, accompagné de plusieurs policiers, s'exécute. Il y trouve un sac au fond duquel est placé un petit bocal. Il est rempli de formol et contient une phalange. Le lendemain, Gérard Berger, du ministre de l'Intérieur, annonce la prise de contact avec les ravisseurs.
Ravisseurs du baron Empain sont entrés en rapport avec son entourage. Ils ont administré la preuve qu'ils le détiennent. Ils exigent pour sa libération le versement d'une rançon.
Immédiatement, une cellule de crise se réunit autour des proches du baron. Sa femme, Sylvana, Jean-Jacques Biry et René Angan font appel à l'avocat Robert Badinter pour suivre le dossier. La police, sous la tutelle du ministre de l'Intérieur, Christian Bonnet à l'époque, se rapproche de la famille. Le commissaire Ottavioli de la criminelle est chargé de l'affaire. Et comme d'habitude, dans ce genre d'affaires, une question est au cœur du débat. Faut-il payer ? Du côté de la police, la position est ferme. On ne paye jamais une rançon. Pour la famille, l'avocat Robert Badinter, déjà célèbre, rappelle que les proches ont leur mot à dire. S'ils veulent payer, ils payent. Quoi qu'il en soit, le montant demandé est surréaliste. La famille décide de réunir et de proposer 30 millions de francs prêtés par le groupe Empain-Schneider. Le contact est repris avec les ravisseurs, mais ces derniers refusent et menacent à nouveau. Au cours de leur enquête, les policiers s'intéressent aussi à la personnalité de l'otage, ses habitudes, ses relations. Et ils découvrent notamment les sommes astronomiques que le baron dépense au poker et dans les casinos. Plusieurs centaines de milliers de francs sont misés, perdus certains soirs. Ses relations avec le milieu du jeu et ses aventures extra-conjugales sont aussi soulevées. La presse prend le relais, plusieurs portraits du baron écornent la réputation du PDG. Il aura fallu que l'homme soit mis à l'ombre pour que sa vie s'éclaire. Cruel paradoxe.
Rien de nouveau dans l'enquête sur le rapt du baron Empain. Seule chose à noter, les policiers semblent très intéressés par certaines relations du PDG, des relations de jeu. Plusieurs amis de l'industriel ont été entendus hier, entre autres Yves Montand, qui a déclaré par la suite à l'agence France Presse, je cite, « C'est vrai que je joue au poker une ou deux fois par semaine. Quitte à jouer, je préfère le faire avec des gens qui ont les moyens. Les amateurs de poker me comprendront. »
Le temps défile. Voilà presque un mois que le baron a été enlevé. Dans ce lieu inconnu, plongé en pleine obscurité, il perd petit à petit toute notion du temps. Depuis le départ, il a les mains et les chevilles attachées à une chaîne et il ne peut se déplacer que de quelques mètres. Son doigt est désinfecté sommairement, trempé dans l'alcool à 90 degrés. Un seau est disposé dans un coin pour les commodités. Il n'est remplacé qu'une fois rempli. L'odeur est terrible. D'autant que le prisonnier ne se lave pas. Un peu d'eau, un croûton de pain, une pomme ou une sardine. Voilà de quoi sont faits ses repas, loin des cuillères en argent qui font son quotidien. Pour ces kidnappeurs, si le temps devient long, alors ils décident de reprendre contact avec la famille. Ils acceptent de réduire la rançon à 40 millions de francs et fixent un rendez-vous pour le transfert le 22 février à Megève. Dans l'intervalle, la famille Empain a changé de stratégie. Elle a rejoint la position des policiers. Il faut dire que le commissaire Ottavioli, grand pro, sait être convaincant. La famille ne paiera donc pas et elle décide de piéger les ravisseurs. On prépare des valises de papier journal et on les confie à Mazieri, un officier de police spécialiste des arts martiaux qui doit se faire passer pour un collaborateur d'Empain. Il se rend au rendez-vous fixé par les ravisseurs. Après plusieurs heures d'attente, la sonnerie retentit à l'accueil. Mazieri décroche. À l'autre bout du fil, l'interlocuteur ne s'épanche pas. Vous nous prenez pour des cons ? Il raccroche.
Nous commençons par l'affaire Empain. Une tentative de remise de la rançon aurait échoué en début de semaine. Les ravisseurs auraient donné rendez-vous à un émissaire de la famille dans la station de sport d'hiver de Megève. Le montant de la rançon se serait situé entre 2 et 4 milliards de centimes, mais les gangsters n'étaient pas au rendez-vous. Ils auraient été gênés par la présence dans la station de voitures émettrices d'une radio périphérique qui venait faire là une émission en direct, croyant avoir été repérés. Ils se seraient donc évanouis dans la nature. Toutes ces informations, bien entendu, nous vous les donnons une fois de plus au conditionnel, puisqu'elles sont invérifiables tant auprès des enquêteurs que des proches du baron.
Les malfaiteurs ont-ils senti le piège ? Toujours est-il qu'à partir du 22 février, ils rompent tout contact. Plus de lettres, plus d'appels, silence radio. Le baron Empain, lui, est toujours enfermé dans le noir, dans cette attente insupportable entre la vie et la mort.
Thank you.
Début du mois de mars 1978, plus d'un mois après l'enlèvement, dans leur planque, les ravisseurs du baron Empain sont divisés. Ils hésitent sur la marche à suivre. Doivent-ils tuer leur otage et tout abandonner ou changer de stratégie et tenter d'obtenir cette rançon? Pour se mettre d'accord, on vote. Suffrage macabre. 5 francs le déplace, 1 franc le tue. Les 8 membres de la bande jettent leurs pièces. Premier tour, égalité parfaite, 4 contre 4. Deuxième tour, les pièces de 5 francs l'emportent, 5 contre 3. La vie d'un homme tient parfois à peu de choses. La mécanique du kidnapping redémarre. Les malfrats décident de changer de lieu et transportent le baron dans un coffre en bois. Oui, vous avez bien entendu, un coffre en bois. On imagine la panique. Arrivés dans le nouvel endroit, les conditions de l'otage s'améliorent. Finalement, les ravisseurs décident de renouer le contact. L'échange est fixé au 23 mars. Les proches et les policiers n'ont pas changé de position, ils ne paieront pas. Mazieri, l'officier de police, spécialiste de combat rapproché, reprend son rôle de transporteur. Vendredi 24 mars, 20h, Mazieri prend la route et suit les instructions des ravisseurs. Il doit se rendre à la borne B16, sur l'autoroute, au niveau de l'Ailé Rose. Arrivé à destination, il se gare sur la bande d'arrêt d'urgence. Quasi immédiatement, un véhicule de dépannage se place derrière la voiture. Mazieri et les policiers qui le suivent pensent que ce sont les ravisseurs. L'agent descend de sa voiture, se dirige vers la dépanneuse, quand tout à coup, deux hommes surgissent du bas-côté, s'engouffrent dans le véhicule du policier qui, on rêve, a laissé les clés sur le contact. Il démarre. La suite, c'est le commissaire Ottavioli qui la raconte.
À ce moment-là, notre dispositif d'intervention a pris en chasse cette voiture, qui d'ailleurs s'est arrêtée quelques centaines de mètres plus loin, les ravisseurs ayant l'intention de sortir la rançon par une porte du mur de protection contre les bruits d'Arcueil.
Une fusillade éclate en pleine autoroute et en pleine nuit. Les deux ravisseurs sont assistés par des complices placés du côté du mur anti-bruit qui canardent eux aussi. L'un des deux gangsters est abattu, l'autre est blessé. Ceux du côté du mur s'enfuient. Mais les policiers tiennent l'un des truands. Il est en vie. On le transporte à l'hôpital. 2 jours plus tard, il est dans le bureau du commissaire Ottavioli. Il s'appelle Alain Cayol. Il a participé à quelques coups avec Messrine au début des années 70. D'emblée, son système de défense s'installe. Son ami Daniel Duchâteau, mort pendant la fusillade, l'a appelé pour récupérer la rançon. Mais du baron et de son enlèvement, il ne sait rien. En revanche, il propose d'appeler ses complices pour le faire libérer. Le commissaire Ottavioli raconte ce coup de fil.
Il était amené à me demander s'il n'était pas possible qu'il passe un coup de téléphone. J'ai dit, à qui ? Mais il me dit, dans la situation dans laquelle je me trouve et dans la situation dans laquelle se trouvent mes complices, alors que je suis convaincu qu'ils ne toucheront pas 1 franc de rançon, je pense que si vous êtes d'accord, je vais leur téléphoner et leur dire de libérer le baron Rompin et de prendre la fuite.
À plusieurs kilomètres de là, le 26 mars, 2 jours après la fusillade, le baron Empain est sommé par ses ravisseurs de s'habiller. On lui donne un survêtement vert, une paire de tennis. Cagoule, menottes, il est de nouveau déplacé. Il monte à bord d'une voiture, le trajet dure 30 minutes. Puis la voiture s'arrête. L'un des hommes lui ordonne de descendre et lui tend un billet de 10 francs. Édouard Jean Empain sort du véhicule, il l'entend s'éloigner. Alors dans sa tête, il compte 1 minute. 60 secondes interminables. Il ôte sa cagoule, regarde autour de lui, il est seul. Il réalise qu'il est porte d'Ivry, il s'engouffre dans le métro. Une longue barbe, les cheveux en bataille, des vêtements informes et le visage amaigri, personne ne fait attention à lui dans la rame. Un SDF peut-être, comme on en voit si souvent dans le métro. Pourtant son visage est à la une de tous les journaux. À un moment, il lève les yeux. Station Opéra. Il descend, cherche le premier téléphone et appelle sa femme. Accompagné d'un policier, il vient le chercher. Il monte à l'arrière, la regarde et s'effondre en sanglots. Il est libre. Mais comment décrire un tel soulagement? Fin d'un terrifiant calvaire de 63 jours pendant lesquels il a vu la mort de si près. Le ministre de l'Intérieur, Christian Bonnet, se félicite de cet heureux dénouement.
Le gouvernement avait décidé de ne pas céder à un ignoble chantage. Il a eu raison de le faire. Les malfaiteurs doivent comprendre que notre société de liberté entend se défendre en exigeant le respect de ses lois. À cet égard, l'heureux dénouement de l'affaire Empain témoigne de la ferme détermination des pouvoirs publics d'assurer la sécurité des Français.
Pour le baron Empain, le retour est difficile. C'est la fin d'un cauchemar, mais c'est le début d'un autre. Car il découvre tout ce qui a été dit sur son compte pendant son absence, sa vie privée, étalé dans les journaux, le regard de ses proches et de ses collaborateurs sur ses pertes au jeu, de sa femme aussi et surtout sur ses relations extra-conjugales. Traumatisé et affaibli, cet homme voit son monde s'écrouler. On lui interdit de s'exprimer dans les médias. On lui fait comprendre que le groupe s'en est très bien sorti durant son absence et qu'il pourrait peut-être prendre du recul, conformément à cette expression hypocrite qui veut dire en vérité « on peut très bien se passer de vous, c'est mieux pour les affaires ». De leur côté, le juge d'instruction et les enquêteurs évoquent même l'hypothèse de l'auto-enlèvement. En réponse, le baron leur tend son auriculaire amputé. Surtout, les policiers ne tiennent qu'un seul des ravisseurs. Le reste de la bande est toujours en liberté. Ils ont réussi à en identifier certains et sont sur leurs traces. Cette incertitude renforce les craintes et les peurs du baron. À peine quelques semaines après sa libération, il décide de partir et s'envole pour les États-Unis. En septembre 1978, quelques mois après son départ, Édouard Jean Empain fait son grand retour en France. Il organise une conférence de presse. Pour la première fois depuis son enlèvement, il s'exprime. Et c'est un tout autre homme, ragaillardi, élégant, bronzé, qui parle devant les caméras.
Je suis rentré à Paris avant-hier, et cette fois-ci, en possession de tous mes moyens, j'ai décidé de faire cette conférence de presse et de répondre à toutes vos questions. Je ne suis pas certain que le fait de répondre à toutes vos questions fasse plaisir à tout le monde, mais c'est ce que j'ai décidé de faire, n'est-ce pas? Il n'est pas possible de diriger Schneider contre le baron Empain, n'est-ce pas? C'est pas possible, on va donc diriger Schneider avec le baron Empain. Je dis simplement que quand il m'est arrivé quelque chose comme ce qui m'est arrivé, et qu'on en sort, on s'attend à voir à l'extérieur autre chose que ce que j'ai vu. Mon entourage, pour l'appeler ainsi, a peut-être fait une erreur psychologique, n'est-ce pas? Et au lieu de m'entourer d'amitié, d'amour et de parler de choses banales, on n'a pas attendu du tout que je récupère et on m'a immédiatement mis sous le nez un certain nombre de faits de ma vie privée et demandé d'y répondre. Le moment n'était peut-être pas tellement bien choisi, 24 heures après ma libération. C'est tout, mais je n'en veux à personne.
Le baron est de retour aux affaires. Il reprend la présidence du groupe et affiche sa détermination. Pendant ce temps, l'enquête suit son cours. Les suspects sont finalement arrêtés. Et ce n'est que 4 ans plus tard que s'ouvre le procès tant attendu. Le 2 décembre 1982, à la cour d'assises de Paris, journalistes et photographes s'agglutinent dans la salle d'audience pour commenter l'arrivée du baron Empain. En face de lui, dans le box des accusés, ils sont 6. Alain Cayol et son frère François, l'un de leurs amis Bernard Guillon, Georges Bertoncini, Didjo, Marc Le Gaillan et sa sœur, ainsi que Robert Matron. Tous nient être à l'initiative du projet. C'était Daniel Duchâteau, l'instigateur du plan, l'homme qui est mort pendant la fusillade sur l'autoroute. Or, les morts ne parlent pas, ce n'est pas là la moindre de leurs vertus. Mais pour la justice et les enquêteurs, il ne fait aucun doute que les véritables organisateurs du méfait sont devant eux ce jour-là. Cependant, tous les acteurs du procès en sont persuadés, il manque plusieurs protagonistes de l'enlèvement dans cette salle. Pour la première fois, Édouard Jean Empain découvre le visage des hommes qui l'ont séquestré pendant 63 jours. Il reconnaît la voix de l'un d'entre eux, Bernard Guillon. Le procès s'achève par son témoignage que tous attendent, évidemment. Édouard Jean Empain ne détaillera pas sa captivité, il expliquera seulement qu'il ne souhaite pas ça à son pire ennemi. Et il pardonne à ses ravisseurs, oui, et raconte la seconde violence, celle qu'il subit depuis sa libération. Il explique ce qui l'a poussé finalement à vendre ses parts et à quitter son groupe en 1981, 3 ans après son retour des États-Unis. parce que quelque chose s'est cassé, fissuré pendant, mais aussi, peut-être surtout après cette terrible épreuve. On l'a enlevé d'un monde qui, à son retour, ne voulait plus de lui. Après 2 semaines de procès, le verdict tombe. 20 ans de prison pour Alain Caillol et Bernard Guillon, entre 15 et 5 pour les autres. À la sortie du tribunal, Édouard-Jean Empain s'exprime sur ce verdict.
J'y étais à 3 titres différents, n'est-ce pas ? J'y étais à titre de partie civile, à titre de témoin, à titre de citoyen. Et bah, si vous voulez, à titre de partie civile, je n'ai pas d'opinion à émettre sur quoi que ce soit. À titre de témoin, si vous voulez, je suis libéré. Moi, j'ai retrouvé ma liberté depuis 5 ans. Alors je suis heureux. Je n'ai rien à dire là-dessus. Et à titre de citoyen, bon ben, j'ai assisté à un procès. C'est terrible. Je dois dire que ce moment, le dernier moment, là, ça a été un peu pénible pour moi.
Comme souvent, il faudra que le temps fasse son œuvre pour qu'on découvre toute la vérité sur cette affaire. En 2011, Alain Caillol publiera un livre dans lequel il racontera sa version. C'est bien lui qui était à l'initiative du projet d'enlèvement. Dans ce récit, il rend hommage au baron Empain qui, tout au long de sa capture, a impressionné ses ravisseurs par son courage et sa force de caractère. L'affaire du baron Empain, c'est sans doute ça aussi. Au-delà de la chute d'un homme qui était au plus haut, à qui tout réussissait, cette tragédie dévoile la complexité des sentiments, la force aussi dont peut faire preuve un homme face à l'inimaginable et la veulerie des puissants, ceux qui, au sein du groupe Schneider, lui ont imposé une double peine. I need to learn when this thing called love, when it's a mirror, baby. Can you see all those parts of me broken across the world? I need to find some kind of peace of mind. It's a demon, baby.
Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire du baron Empain avec notre invité Patrick Sobelman. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes producteur de films et notamment de Rapt, réalisé par Lucas Bellevaux en 2009 avec Yvan Attal et Anne Consigny, film qui s'inspire directement de l'affaire Empain. Patrick Sobelman, vous faites un métier passionnant, celui de producteur, et tout producteur qui se respecte, et je pense que c'est votre cas, s'investit dans une histoire. Quand il décide de mettre à l'écran une histoire, c'est que l'histoire pour lui a des résonances, du sens, qu'elle est forte, pas seulement dans ses formes artistiques et cinématographiques, mais pour ce qu'elle raconte, hein. Surtout lorsqu'elle est extraite d'un fait réel. Qu'est-ce qui vous a fasciné, vous, dans cette histoire? Première question, et quand vous avez reçu cette proposition du film, est-ce que vous vous souveniez bien de l'histoire?
Et non, comme Rebecca Manzoni, j'avais des souvenirs qui étaient effectivement un enlèvement pour de l'argent, un doigt coupé, voilà, et beaucoup de bruit médiatique. Quand Lucas m'a proposé cette histoire, il avait pris un temps d'avance, il avait déjà relu un petit peu, et donc il m'a proposé de lire le livre qu'il venait de lire lui-même. Et qui est en fait une autobiographie du baron Empain qui raconte lui-même son histoire. Mmh. Et en fait, tout est dedans. C'est-à-dire tout ce qu'on peut attendre d'une histoire, d'un drame, de personnages, d'une fiction, sont contenus là-dedans, et y compris le fond. Et le fond, c'est finalement la tragédie d'un homme. C'est-à-dire, un homme va vivre une tragédie, et cette tragédie ne va pas s'arrêter à la fin de l'histoire. Elle va continuer. Et d'une certaine manière, ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette histoire, c'est la deuxième partie. C'est la fin. C'est-à-dire, c'est le retour. Parce que jusque-là, on est dans un fait divers tragique, mais on est dans un fait divers. Ce qui rend l'histoire incroyable, à mon avis, c'est le retour. C'est le fait que cet homme qui peut s'attendre à de la compassion de la part de son entourage, de sa famille, de ses collègues de travail, du monde en général, va être jugé parce que finalement, on a découvert qu'il n'était pas celui qu'on croyait qu'il était. Il avait compartimenté sa vie et ça le regardait. Il avait l'aspect connu, et puis il y avait le jeu,
les femmes,
une garçonnière, oui. et tout ça a été mis au grand jour, et du coup son retour n'a arrangé personne, son retour a dérangé tout le monde, y compris sa femme, et c'est ça et lui, de son côté, ne comprend pas pourquoi il n'a pas été libéré, ne comprend pas pourquoi sa captivité a duré si longtemps, près de 3 mois. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas payé 2 mois, pardon.
Pourquoi
est-ce qu'on n'a pas payé plus vite? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas libéré? Et qu'il ne comprenait pas. Et du coup, les ravisseurs ne manquaient pas de lui rappeler que, dites donc, baron, quelqu'un s'occupe de vous. On tient pas tellement à vous, en fait.
Quelle révélation terrible, effectivement. C'est pour ça que j'appelle ça double peine.
Voilà.
Et quand vous avez discuté avec Cablevaux du projet du film, vous lui avez demandé s'il allait vraiment, effectivement, s'attacher à cet aspect psychologique autant, peut-être, voire plus qu'au fait divers.
C'était ça qui l'intéressait dès le départ.
Oui,
c'était ça qui l'intéressait dès le départ. D'ailleurs, on voit dans le film que l'aspect enquête tient un rôle parce qu'il faut, mais c'est pas ça qui l'intéresse le plus. Et ce qui intéresse le plus Lucas, c'est ce que vivent les personnages. En l'occurrence, ce que vit le baron, en l'occurrence le président Graff dans le film, dans sa captivité. Qu'est-ce qu'il peut imaginer de ce qui se passe à l'extérieur, et comment, à l'inverse, sa famille, notamment sa femme jouée par Anne Consigny, et le numéro 2 du groupe, comment est-ce que eux vivent les révélations de donc c'est l'incommunicabilité d'une certaine manière entre les êtres qui est le projet passionnant dans cette affaire. Et après, il y a juste une matière à fiction formidable.
Oui, c'est en plus parce qu'effectivement, il y a une histoire, il y a cette dimension psychologique. Le film avait bien fonctionné?
Le film a bien marché, absolument. Mmh. On a fait 350 000 entrées, il y a eu une très très bonne presse. Le film a globalement très bien marché. Il faut dire que ce que Yvan Attal fait dans le film est formidable. Enfin, l'acteur est tout le monde a reconnu. Il a même été d'ailleurs nominé au César pour sa composition. Je veux pas dire performance, parce que c'est vraiment une composition. Il n'a à aucun moment cherché à imiter. Il a vraiment composé quelque chose de façon très personnelle.
Voilà. Alors, c'est une protection juridique, ça, le fait que les producteurs ou les réalisateurs disent toujours, c'est l'affaire du baron. Non, mais c'est librement inspiré de l'affaire. On sait bien que c'est l'affaire du baron Empain, du début jusqu'à la fin.
Oui, alors, sur cette histoire, dès le départ, on s'est dit que, enfin, Lucas a immédiatement pensé qu'il ne voulait pas que son personnage s'appelle le baron Empain, que l'affaire se passe en 78, pour plusieurs raisons. La première, c'est pour une raison d'ordre économique, c'est-à-dire que un film d'époque coûte beaucoup plus cher qu'un film contemporain. Et lui, c'est pas ça qui l'intéressait le plus, c'était pas de... Voilà. La deuxième raison, c'est parce que si on le fait en 1978 avec le baron Empain, il faut d'abord son autorisation. Et non seulement il faut son autorisation, mais d'une certaine manière, il y a une obligation morale de ne pas trop s'écarter de l'histoire.
Oui.
Et d'être le plus proche des faits véridiques. Oui. Or, on sait très bien que dans une adaptation, par exemple, l'être le plus proche possible du livre, par exemple, ne garantit pas le meilleur film. Et que de temps en temps, il faut s'écarter un peu de l'histoire pour ne pas trahir le véritable fond, le véritable, voilà, l'esprit du livre. Et en transformant le Baron en Pain en graphe, du coup, cette liberté-là nous était rendue. Alors, évidemment, on sait très bien qu'avec l'enlèvement d'un riche homme d'affaires dont on va couper le doigt, on sait très bien qu'on parle du Baron en Pain aussi. Et donc, nous sommes interdits, de faire des choses qui pourraient porter préjudice au Baron en Pain. Voilà. Et donc, tout ce qu'on a pris comme éléments dans le scénario sont des éléments qui ont été soit rapportés eux-mêmes par le Baron en Pain, soit dit au moment du procès, soit dit dans la presse. C'est des éléments publics. Et notre conseiller juridique nous a bien alerté sur cette question-là, qu'il n'était pas question là-dessus de pouvoir être attaqué, mais moralement même, c'est pas simplement juridiquement, c'est que moralement on se l'interdisait, on ne voulait pas porter en quelque manière préjudice non seulement au baron, mais même à sa famille évidemment.
Alors justement, comment ont réagi les protagonistes de l'affaire, les proches, la police, autour de ce film? Ils ont dit oui, c'est bien.
Écoutez, je crois que personne ne s'est senti trahi par le film ou ne s'est senti dépossédé de quelque chose. Le Baron en Pain a vu le film, c'est évidemment pour nous le plus important.
Ben oui.
Il a vu le film avant sa sortie, seul, dans une salle, ou entouré de quelques-uns de ses proches, je crois. Je n'étais pas présent quand il l'a vu. Je pense que ça n'a pas été facile pour lui, mais qu'il a, il a adoubé le film. Enfin, c'est-à-dire qu'il a validé le film, et il a trouvé que le film rendait justice à la façon dont les choses s'étaient passées, mais qui ne sont pas telles qu'elles sont passées.
C'est la liberté artistique.
C'est
ça,
la liberté artistique.
Et alors, il a apprécié la composition d'Yvan Attal.
Oui, je crois qu'il a beaucoup
aimé. Bon,
oui, oui,
il est toujours très bon d'ailleurs.
Oui. Mais d'ailleurs, Yvan Attal a dit, en tout cas après ce film, que ça avait été pour lui un rôle extrêmement important. Extrêmement important. Il faut dire que le rôle est.
Ah, il demande effectivement un grand investissement de l'acteur.
Oui, hein. Il a fallu qu'il perde beaucoup de kilos. Oui.
Bien sûr. Tiens, on va écouter. On a vu Yvan Attal. On va écouter la vraie voix du vrai Baron en Pain sur. C'est une autre archive qu'on va écouter ensemble sur ses conditions de détention.
Mauvaise nouvelle, Président. Il ne va pas payer. J'ai bien l'impression que personne n'a envie de te revoir vivant.
C'est impossible.
Comment t'expliques qu'il nous propose 1 million alors qu'on sait que tu pèses 20 milliards?
Et j'ai pas 20 milliards.
Ne prends pas pour des cons. C'est dans tous les journaux.
Ils mélangent tout. C'est le chiffre d'affaires du groupe. C'est pas mon argent.
Essaie de pas nous embrouiller. On n'est pas les impôts, nous. Tu nous auras pas comme ça.
Le groupe ne m'appartient pas. Je suis l'actionnaire principal, d'accord? Mais j'ai pas 20 milliards!
Ça t'a pas empêché de perdre 1,5 million en Union Casino!
Mais j'ai jamais perdu 1,5 million!
Arrête! C'est dans le journal! C'est là! Sous les yeux! Mets ton masque et sors de là!
Mène-toi, bordel!
Tu veux quoi exactement? Tu veux qu'on te coupe une main? Qu'on t'arrache un œil? C'est ça que tu veux? Parce que c'est ça qu'on va faire! On commence par quoi?
Je vous jure, je suis pas aussi riche.
Jure pas! Jure pas, t'entends?
Bon voilà, c'était effectivement le film, emporté par mon enthousiasme.
La voix d'Yvan Attal.
Voilà, la façon dont Yvan Attal a incarné le Baron en Pain, que je n'ai pas connu personnellement, on a l'impression que maintenant que le Baron en Pain, il a la tête d'Yvan Attal et la voix d'Yvan Attal. C'était donc effectivement un extrait du film. Ce qui est intéressant dans ce film-là encore, c'est vraiment la construction alternée entre, d'un côté, d'un point de vue de l'image, hein, l'obscurité, le noir, un homme seul face à ces hommes cagoulés, non identifiés, puis de l'autre, les coulisses des tractations avec... Alors pour le coup, il y a un contraste très fort entre ces hommes en costume qui négocient la vie d'un homme. Et ça, c'est assez frappant dans le film. C'est quelque chose auquel vous teniez aussi. Parce que c'est deux univers.
Oui, ça, c'est vraiment tout le talent de Lucas Bellevaux de faire naître une tension à partir de situations qui sont, certes, sont des situations fortes. Mais encore, fallait-il ces allers-retours entre le, donc, il n'était pas question d'adopter le point de vue de l'un ou le point de vue de l'autre. Ce qui intéresse Lucas, c'est justement l'ensemble de l'histoire. C'est d'une certaine manière le drame, la tragédie de l'histoire. En restant complètement du côté de la captivité, on n'adoptait que le point de vue de Graff, et donc on n'avait pas, on ne savait pas ce que pouvait penser la famille à ce moment-là, et vice versa. Donc il fallait être des deux côtés, et en même temps, il me semble qu'il y a du huis clos des deux côtés, c'est-à-dire que il y a un huis clos évidemment avec l'emprisonnement du président Graff, mais il y a également un huis clos du côté de la famille et du côté de la police. Comme ça, toutes les scènes sont des scènes complètement cloisonnées. L'extérieur n'existe pas beaucoup. Enfin, chacun est pris dans un monde clos.
Alors, on va se retrouver dans quelques minutes, Patrick Zobelman, dans 3 minutes, le temps d'écouter les Who, car en 1978, l'année où se passe cette affaire Baron en Pain, il chantait tout simplement « Who are you ?» Et où, Patrick Sobelman, vous produisez des films, il semble que vous ayez un certain goût pour des films qui relatent des faits réels. Il y a notamment 38 témoins, vous avez produit 38 témoins. Un mot du film de ce film-là.
Oui, c'est le film suivant de Lucas Bellevaux, qui raconte l'histoire de ce fait divers où une femme a été tuée à l'arme blanche la nuit et son calvaire a duré plusieurs heures, et l'enquête montrera que 38 personnes ont nécessairement vu ou entendu quelque chose et que personne n'a bougé. Ouais. C'est un fait divers réel qui s'est passé, en fait, le fait divers réel s'est passé aux États-Unis, à New York, je crois, en 1964, et Lucas l'a adopté aussi, en France récemment, enfin, de façon contemporaine. Ouais. Alors, c'est également avec Yvan Attal et Nicole Garcia aussi.
38 témoins, le baron en pain Rapt. Qu'est-ce qui fait que vous avez cette inclinaison pour le cinéma issu des faits réels? Parce que c'est un supplément d'âme? Parce que la réalité dépasse la fiction, c'est ça?
Ben, le réel nous fournit, le cinéma a beaucoup à voir avec le réel aussi. Le réel nous fournit des histoires absolument incroyables. C'est-à-dire après, il faut savoir pourquoi on les met en scène et qu'est-ce qu'on en attend, et quel angle on choisit pour raconter l'histoire. Mais le réel, l'ouverture, la lecture du journal tous les jours nous donne des matières à fiction extraordinaires. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a que ça dans le cinéma. Il y a de très belles histoires totalement inventées. Mais là, évidemment, on a affaire à des histoires très fortes et Lucas a très souvent plongé effectivement dans le, j'allais dire dans les journaux, la source d'inspiration de ces histoires, oui.
Bien
dans
sûr.
Les livres.
On va écouter un deuxième extrait. Alors, il s'agit bien d'un extrait de votre film, hein, comme le premier. Voici un second. Donc, on est dans le volet donc plus intimiste, ce pan de l'histoire qui vous a beaucoup intéressé, c'est-à-dire la blessure psychologique du baron Empain. Il en voudra beaucoup à ses proches et à sa famille en sortant. C'est aussi ce que montre ce film, notamment à travers cet extrait entre Yvan Attal, qui joue, on le rappelle, le baron Empain, et donc sa fille. On va écouter cet extrait. Effectivement, on comprend bien à quel point la blessure psychologique est forte.
Moi, je juge personne, je veux être jugé par personne. Encore moins par ma famille.
Tu vas nous laisser souffrir comme ça, sans rien dire? En caressant ton chien? Qu'on se réjouisse comme si de rien n'était?
De quoi on parle? Hein? De qui? Quelqu'un m'a demandé si je souffrais? Si j'avais souffert? Si j'avais cru que j'allais mourir? Qui m'a demandé à quoi ou à qui j'avais pensé à ce moment-là? Qui m'a demandé si j'avais eu peur? Qui m'a demandé si j'avais pleuré, si je m'étais senti seul? Tu me l'as demandé, toi? Hein? Et elle? Tu crois qu'elle me l'a demandé? Personne. Personne, pas une fois. Tout ce qu'on m'a demandé, c'est de m'expliquer. Que je dise avec qui j'avais couché. Et où, et quand, et combien j'avais perdu au poker, et pourquoi ci, et pourquoi ça? J'ai aucun compte à rendre. Ma vie m'appartient comme la tienne t'appartient.
Ça vous donne envie de revoir le film,
ouais.
Votre film.
Ouais, ouais.
Vous disiez
ouais,
tout à l'heure, j'ai envie de le revoir.
Oui, ça donne envie de le revoir, mais je me souviens de cette scène en particulier, ouais. On avait la chair de poule, là. Yvan, je me souviens très bien d'une prise qui était... c'était exceptionnel, quoi. Vraiment, là, il tremblait, quoi. Enfin, c'était vraiment, c'était saisissant, ouais. La colère rentrée, et qui soudain sort complètement, il se met à crier, puis le rentre, parce qu'il parle à sa fille, c'est sa fille, là.
C'est bon.
Qui est en face de lui, c'était une scène, c'était très fort, oui.
Donc, une prise parce qu'il était dans la sincérité immédiatement, en fait.
Oui, je pense que Lucas en a fait plusieurs, je me souviens plus, c'était la première, mais je vois ça dedans. De celle-ci était vraiment très forte, oui.
Est-ce que vous avez eu des pressions amicales ou faussement amicales ou hypocritement amicales de la part de je ne sais qui avant de faire le film, parce que vous avez touché quelque chose d'assez sensible finalement, cette histoire était assez sensible?
Absolument aucune. Nous avons coproduit le film avec un coproducteur belge, et donc le baron Empain était en Belgique, évidemment quelqu'un d'extrêmement connu. On n'a eu aucune pression, on a eu simplement cette angoisse, mais cette envie, en tout cas, que à la fin, même si c'était pas nécessaire, mais que le baron Empain accepte ce film. Enfin voilà. Et donc
La pression, c'était ça.
Oui, la pression était plutôt celle-là. Voilà.
Merci, Patrick Sobelman.
Merci à vous. Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'enlèvement du baron Empain, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.